Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Caromia veri et cibus et sanguis meus veri est potus. Ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage. Chers fidèles, notre Seigneur venait par un miracle mémorable de rassasier avec seulement 5 pains 5 000 hommes. Et cependant, il fut contraint peu après de leur faire des reproches. Un si grand prodige n'avait pu les gagner à la fois, et ils ne le suivaient que dans l'espoir d'avoir à nouveau de ce pain matériel. Ils demandèrent alors, suite à ces reproches, pour croire en lui, comme il le leur demandait, un autre miracle plus magnifique, et ils alléguèrent que Moïse en avait opéré un plus merveilleux, en nourrissant autrefois leurs ancêtres dans le désert pendant 40 ans, avec la manne. C'est à cette occasion que notre Sauveur leur découvrit, et par eux à nous, les merveilles contenues dans la doctrine sur l'Eucharistie. Dans ce long discours qui suivit, notre Seigneur explique que Dieu a donné aux hommes un pain plus merveilleux en envoyant au monde son Fils, le vrai pain de vie, par lequel les hommes doivent vivre d'une vie non corporelle, précaire, sujette à tant de tracas et de douleurs, mais d'une vie spirituelle divine, immortelle. Et ce dernier discours, très long, qui court tout au long du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, se termine par ces paroles qui choquèrent grandement les Juifs, parce qu'ils n'y comprirent rien. « Ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. » Pour comprendre cette pensée, il faut savoir que parmi les créatures, certaines sont inertes, comme les pierres et les métaux. D'autres, au contraire, possèdent la vie, comme les plantes, les animaux, l'homme et l'ange. De ces dernières, de toutes ces créatures vivantes, la plante, l'animal, l'homme et l'ange, il leur faut toutes une nourriture pour sustenter leur vie. Les êtres de ce monde se nourrissent des éléments de ce monde. Mais pour les êtres supérieurs, comme pour les anges, leur nourriture est d'un autre ordre. Elle est spirituelle. Ainsi, l'ange Raphaël expliqua à Tobie, « Il vous a paru que je buvais et que je mangeais avec vous. » Mais moi, j'use d'une nourriture invisible, d'un breuvage qui échappe aux yeux des hommes, donc spirituel. L'homme faisant partie des deux ordres, de l'ordre matériel et de l'ordre spirituel, a donc besoin d'une double nourriture, nourriture matérielle, comme pour les plantes et les animaux, et d'une nourriture spirituelle, comme pour les anges. Saint Augustin nous explique ainsi que dans l'ordre spirituel, les hommes ont le même aliment que les anges, quoique cependant il y ait une différence, car ceux-ci se rassasient et trouvent la béatitude en voyant Dieu et en le possédant à découvert, tandis que nous, c'est en contemplant et en aimant la beauté et la bonté infinie que nous vivons de la vie spirituelle qui n'est autre que la charité. Ce sont les paroles de saint Augustin. Car la vie spirituelle consiste essentiellement dans l'amour de Dieu. Car qui aime vit et qui n'aime pas ne vit pas. C'est la parole même de saint Jean, qui n'aime point demeure dans la mort. C'est très fort. Qui n'aime point demeure dans la mort. Pas de vie. Cette nourriture spirituelle de l'ange et de l'homme n'est autre chose que Dieu lui-même. Nous nous nourrissons de Dieu. C'est une nourriture ainsi appropriée à la noblesse de nos âmes, car notre âme est infiniment plus relevée que le corps. Ainsi, au Concile de Florence, il a été défini que ce pain céleste produit dans les âmes des justes ce qu'opère dans les corps la nourriture matérielle. Et donc ce que dit Concile de Florence, pour nous nourrir de Dieu, le bon Dieu a institué cette divine nourriture qu'est la Sainte Eucharistie, qui nous communique Dieu nous-mêmes, duquel nous devons nous nourrir spirituellement. Mais comme cette courte définition du Concile de Florence, qui fait une comparaison entre la nourriture du corps pour le corps et la nourriture céleste pour l'âme, il nous faut exposer une à une les propriétés de la nourriture corporelle en voyant comment la nourriture spirituelle a un effet similaire pour l'âme. Tout d'abord, la nourriture corporelle sustente, nourrit le corps, éloigne la mort. De la même façon, la nourriture spirituelle, la Sainte Eucharistie, conserve l'âme dans la vie de la justice et la préserve du péché mortel qui lui ferait perdre la vie spirituelle. Deuxièmement, la nourriture corporelle donne au corps des forces et de l'énergie. Ceux qui font des travaux physiques importants se rendent compte qu'au bout d'un moment, il faut manger. On est fatigué, les forces du corps disparaissent. Et la nourriture que l'on prend redonne de la vigueur, permet de se remettre au travail. Il en est de même pour la nourriture spirituelle. D'une façon similaire, la Sainte Eucharistie confère à ceux qui le reçoivent avec fruit le courage spirituel, l'énergie nécessaire pour marcher d'un pas ferme et sûr dans la route étroite qui conduit au ciel. Si on ne communie pas, nous devenons languissants dans la pratique des vertus. Il faut communier pour recouvrer la ferveur, la dévotion, la facilité dans la pratique des vertus. Il est écrit dans la Sainte Écriture qu'Élie, après avoir mangé le pain cuit sous la cendre que lui offrit un ange et qui était la figure de ce pain spirituel, y trouva une telle force et une telle vigueur qu'il put marcher pendant 40 jours sans prendre aucune autre nourriture, jusqu'à ce qu'il fût arrivé au mont Horeb, la montagne de Dieu. Nous aussi, qui marchons vers la montagne de notre patrie du ciel, dont le mont Horeb est l'image, et que ce chemin est long, difficile, embarrassé de mille difficultés, nous avons besoin de manger de cette nourriture céleste qui nous permettra d'arriver au but. Et sans elle, nous n'y arriverons pas. L'ange qui réveilla Élie dit à chacun de nous, « Lève-toi et mange ». Car il te reste une longue route à faire, une route que nul ne peut accomplir sans le céleste viatique, sans la céleste nourriture. Troisième propriété que nous pouvons trouver dans la nourriture corporelle, et ensuite en faire une analogie avec la nourriture spirituelle, c'est que la nourriture corporelle, outre le fait qu'elle nourrit le corps, lui permet aussi de grandir. Ainsi, par la nourriture quotidienne, le corps des enfants peut grandir et peuvent grandir et parvenir à leur entier développement. De même, ce pain céleste nous permet d'avancer de vertu en vertu et de grandir dans la vie spirituelle. Ainsi, saint Thomas affirme-t-il qu'il n'y a pas de sacrement plus utile au salut parce que par lui les vertus se perfectionnent et que l'âme se remplit de l'abondance de tous les dons spirituels. C'est ce qui fait dire à Tertullien, « Votre bouche reçoit le corps du Seigneur, mais au-dedans, l'âme s'engraisse de Dieu. » Nous avons besoin de communier pour progresser dans les vertus. Patience, humilité, détachement de soi-même, courage, et toutes les vertus théologales, plus grande foi, une plus grande espérance, plus grande charité surtout. Surtout une plus grande charité. Et ce n'est pas possible sans la Sainte Eucharistie. Quatrième propriété. La nourriture corporelle rétablit encore le corps épuisé par la fatigue ou les maladies. Ce pain spirituel opère précisément quelque chose de semblable dans les âmes des justes. Son effet propre est la réfection spirituelle, c'est-à-dire le renouvellement d'un esprit affaibli. Il faut savoir qu'il y a en nous, en chacun d'entre nous, une force malfaisante. La force malfaisante de la concupiscence que nous avons tous reçue à la naissance. Et même si le baptême a effacé la culpabilité du péché originel, les blessures demeurent, les mauvaises tendances demeurent. Le baptême les affaiblit, mais ne les fait pas disparaître. Et cette concupiscence, nous l'avons en nous jusqu'à notre mort. Il y a en nous un poids de mort, un poids qui nous ramène vers la terre, vers les choses mauvaises. Nous avons besoin de communier pour contrer cette mauvaise force qui nous tire vers le bas. Pour combattre cette maladie de la nature déchue, notre Seigneur a institué cette nourriture divine qui, en nous faisant goûter la suavité des choses du ciel, nous détourne des convoitises de la chair et nous porte à l'amour des biens spirituels. Voilà pourquoi saint Thomas affirme qu'on ne saurait trop faire un fréquent usage de ce sacrement qui renouvelle la ferveur et la dévotion dans nos âmes qui peuvent être languissantes et attiédies. Et de la même façon que si nous retirons du feu l'eau bouillante, celle-ci va redevenir froide, tiède puis froide. Ainsi, la dévotion et la ferveur de la charité qui nous viennent du dehors. La dévotion nous vient du dehors, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas nous qui nous la donnons. Elles viennent d'un don surnaturel de Dieu. Cette dévotion et cette ferveur ont besoin d'être laissées sur le feu de la divine charité et surtout de la Sainte Eucharistie, auquel il faut bien sûr ajouter d'autres moyens qui permettent de garder ce feu de la charité, l'étude, la lecture spirituelle, la prière, la pratique des vertus, la contemplation des choses de Dieu. Sans cela, la concupiscence qui, du fait des blessures du péché originel, nous est innée, vient de nous, nous est propre, nous ramènera à la froidure des convoitises des choses de la terre et fera périr toute dévotion. Ce sacrement divin étant la principale cause de la ferveur et de la dévotion, il faut le fréquenter pieusement et saintement afin qu'il nous ranime et qu'il nous rétablisse dans le véritable amour de Dieu. Dernière propriété que nous pouvons trouver dans la nourriture corporelle et qui peut s'appliquer à ce divin sacrement. Les aliments que nous consommons fournissent les nutriments nécessaires au maintien et au renouvellement de nos cellules, influençant ainsi indirectement notre physiologie. Ainsi, des animaux nourris avec des aliments spécifiques, comme des plantes médicinales, peuvent acquérir des propriétés actives, utiles en thérapeutique. Cette propriété d'assimilation, le pain des anges la possède à un bien plus haut degré que toute autre nourriture. En effet, les autres aliments se transforment en la substance de celui qui les absorbe. Mais la nourriture céleste ne se change aucunement en la nature de celui qui le reçoit. C'est tout le contraire. C'est celui qui reçoit la Sainte Eucharistie qui devient de plus en plus Dieu qu'il vient de recevoir. Nous nous divinisons en communion. Ainsi, le Seigneur, dit-il à saint Augustin, « Je suis le pain des forts, grandis et tu me mangeras. Tu ne me changeras pas en toi comme la nourriture de ta chair, mais tu te changeras en moi. » On comprend par là que le principal effet de ce sacrement vénérable, qui est suivant saint Thomas de rendre peu à peu divin, c'est-à-dire pur, saint, innocent, immaculé, donne à ceux qui le fréquentent une vraie dévotion et une véritable humilité. Nous recevons de Dieu. C'est ce que notre Seigneur nous enseigne principalement dans l'Évangile de ce jour, quand il dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Et il ajoute, par une similitude sublime, le résultat de cette cohabitation. « Comme mon Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par mon Père, de même celui qui me mange vivra aussi par moi. » C'est-à-dire, comme ma vie est la même que celle de mon Père, parce que mon Père est en moi, ainsi la vie de celui en qui je résiderai sera semblable à ma vie. Elle reproduira la pure image de mon innocence, de ma justice et de ma sainteté. Concluons. Tous ces effets que nous venons de décrire, nous en bénéficierons à la condition, il y a une condition, que nous recevions ce pain du ciel qu'est notre Seigneur avec dévotion, avec fruit. Les sacrements nous communiquent la vie divine et surtout parmi eux la Sainte Eucharistie. Mais pour être reçus avec fruit, il faut les recevoir dignement. C'est l'épître de cette messe. Pour cela, il est nécessaire de se préparer à la communion. Préparation éloignée par une vie éloignée du péché autant que possible, par la pratique du combat spirituel, la prière quotidienne, le chapelet, toutes ces choses qui font que nous avons une vraie vie chrétienne, une vraie vie d'union à Dieu dans la journée, que nous ne vivons pas comme des païens, et une préparation prochaine, lire sa messe à l'avance, surtout ses belles messes du dimanche, profiter de ces beaux textes que la liturgie nous offre chaque jour pour nous nourrir, pour nous instruire. Examiner sa conscience aussi pour s'approcher de ce six sacrements aussi pur que possible. Pas de péché mortel sûr, mais aussi confession des péchés véniels pour attiser en eux le feu de la ferveur, du désir de Dieu. Et surtout, là, c'est la prière, en fait, qui attisera en nous ce désir de Dieu, ce désir de communier. La prière nous met en contact avec Dieu. Et ce contact avec Dieu nous fait désirer Dieu. Désirer de le posséder de plus en plus. Et la communion, c'est le moyen proportionné, le meilleur moyen qui nous soit donné pour posséder Dieu au maximum. Nous le recevons réellement, sacramentellement. L'action de grâce aussi est nécessaire pour communier avec fruit. Il nous faut donner du temps à notre Seigneur, lui tenir compagnie, nous laisser transformer par lui, par cette bienfaisante présence au plus intime de nous. Pensons à ce que le bon Dieu a fait pour se donner à nous. Il est mort sur la croix, il a versé tout son sang. Il a pris sur lui les plus grandes souffrances qui aient jamais existé, car il leur a donné toute leur force. Et il a fait ça pour nous. Il nous faut lui donner du temps. Il ne nous a pas aimés pour rire. Il nous faut également profiter des messes célébrées en semaine pour se nourrir plus fréquemment de cette nourriture divine. Et si nous ne pouvons pas, à cause d'un emploi du temps trop chargé par exemple, d'occupations diverses qui nous empêchent d'assister à la messe tous les jours, pratiquons au moins la communion spirituelle qui nous permettra de rester en contact avec ce désir de recevoir le bon Dieu, qui préparera au mieux la communion du dimanche suivant. De nombreux saints ont pratiqué cet acte de piété de la communion spirituelle plusieurs fois par jour pour se préparer à la messe ou pour rendre grâce pour la communion du matin. N'hésitons pas. Cela attisera en nous, enflammera en nous ce désir de Dieu. Et voyez, par ces pratiques qui nous permettront de communier avec fruit, alors nos âmes seront sous l'influence du Saint-Sacrement et alors seulement la chair de notre Seigneur sera vraiment pour nous une nourriture, et son sang sera vraiment pour nous un breuvage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.